l'émission. Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Et il est 7h30 sur Radio Classique, soyez les bienvenus.
La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
Bienvenue à vous tous. Emmanuel Macron sera au milieu d'un paysage de désolation aujourd'hui. Et toute notre solidarité s'exprime pour ceux qui sont victimes de cette véritable tornade qui a ravagé quelques vallées dans les Alpes-Maritimes.
Et des routes détruites, des maisons rayées de la carte. 5 jours après les crues meurtrières, le président de la République est attendu dans la vallée de la Roya et celle de la Vésubie. Visite ce soir du village de Saint-Martin-Vésubie où l'eau courante doit être rétablie aujourd'hui. Avant cela, déplacement à Tende ou encore Breil-sur-Roya, commune qui se réveille encore coupée du monde, sans eau, sans électricité. Les habitants sur place sont traumatisés, le raconte Denis Masseglia, député En Marche du Maine-et-Loire. Il a grandi à Breil, sa famille a été directement touchée par la catastrophe. Denis Masseglia, très ému au micro de Rémi Vallès.
Le président de la République, il va voir, c'est un territoire ravagé. On voit la piscine, là où j'ai appris à nager, qui n'y est plus. On voit le chapiteau où je me suis marié qui est détruit. C'est beaucoup d'émotion déjà de voir ce village. Et puis l'inquiétude de la famille, puisque j'ai eu des nouvelles de ma grand-mère que hier soir. Donc c'est des périodes qui sont longues, qu'il faut attendre. Si je dois dire quelque chose, je me permettrai de dire « Akame esbrez ». Ça veut dire « Ma maison, c'est Breil, en Breillois ».«
Ma maison, c'est Breil », le témoignage du député Denis Masseglia. Le bilan, lui, toujours provisoire, est d'au moins 5 morts, une 20aine de portées disparues. Par ailleurs, c'est ce matin qu'est signé en Conseil des ministres l'arrêté de catastrophe naturelle.
Passons à l'autre sujet qui concerne les chiffres de l'épidémie de coronavirus qui grimpent encore, il faut le dire, qui grimpent encore et toujours,
ah oui. Jean-Marc. Eh oui, Guillaume, 10 000 nouveaux cas. Le taux de tests positifs n'en finit plus de flamber. 9% désormais, un point de hausse en seulement 48 heures en Île-de-France. France, 40% des lits en réanimation sont occupés par des malades. Et il n'y a pas que dans les hôpitaux que la fièvre grimpe. Dans les entreprises, les plans sociaux s'accumulent, pas moins d'une trentaine, rien qu'en Occitanie où le fleuron, l'aéronautique, est frappé par un trou d'air. 5000 postes menacés chez Airbus, la TECOR, 600 suppressions chez le sous-traitant 3A, les salariés manifestaient encore hier. Émilie Vallès, l'aéronautique se prépare à un tsunami social dans la région.
Ce sont 20 000 emplois dans l'aéronautique qui seraient menacés en Occitanie. Une hécatombe qui s'amplifie au fur et à mesure des annonces de plans sociaux. Robert Amad, coordinateur CGT Aéronautique.
Et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas, les intérimaires, les périodes d'essai qui n'ont pas été renouvelées. C'est une catastrophe à plusieurs niveaux, parce qu'on perd les emplois, on perd les compétences. Le secteur aéronautique, c'est quand même un secteur d'excellence, avec des compétences de pointe. Sur Toulouse, sont très difficilement réutilisables, donc c'est des gens qui vont devoir quitter la région.
Or, ces compétences, on en aura besoin quand cela repartira, poursuit Robert Amad, qui soulève un autre point.
Le fait d'être en mono-industrie, c'est extrêmement dangereux. Alors ça est très bien tant que le secteur était extrêmement florissant. Maintenant qu'on voit qu'on traverse quelques turbulences, c'est très compliqué.
Alain Di Crescenzo, président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie, craint pour tout le tissu économique de la région, et en particulier pour Toulouse.
Si je prends uniquement Airbus, si je regarde les emplois menacés sur Toulouse, 3300, c'est 66% qui sont des cadres. Si vous regardez au niveau de la sous-traitance, vous avez des cadres, des ingénieurs, donc avec des rémunérations, avec une capacité à consommer et investir qui est très importante, ce qui donne un impact très important sur le commerce, sur l'investissement, sur l'immobilier. C'est ce que l'on commence à voir aujourd'hui.
Et notre malheur se désole, Alain Di Crescenzo, c'est que nos deux autres poumons économiques, le tourisme et la viticulture, sont aussi touchés de plein fouet par la crise.
L'information est à prendre évidemment avec beaucoup de précautions. La dernière otage française dans le monde serait bientôt libérée, 4 ans après son enlèvement par des djihadistes à Gao, au nord du Mali. Sophie Petronin, une humanitaire de 75 ans, serait en route pour Bamako, aux côtés de son fils. Pour l'heure, silence radio du Quai d'Orsay. Ce transfert serait lié à la libération de dizaines de djihadistes le week-end dernier dans le nord du pays.
En tout cas, 100 à 200 djihadistes français sont toujours en Syrie, représente une menace imminente.
Oui, constat hier du procureur de la République antiterroriste Jean-François Ricard. Même si l'État islamique n'a plus de chef, même si l'organisation terroriste est défaite militairement, elle reste pourtant active. Ses combattants, pour la plupart réfugiés dans le nord-ouest syrien, n'auraient pas abandonné leur velléité terroriste. Ils seraient même encore capables de frapper, selon le magistrat. Constat partagé par Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme.
On a aujourd'hui un stock de Français qui soit était déjà présent dans la zone d'Idlib, soit ont rejoint la zone d'Idlib. Ils ont tous la particularité d'avoir été aguerris au maniement des armes, des explosifs. On sait qu'ils ont des réserves financières, un trésor de guerre. Ils sont susceptibles aussi de lever des fonds très rapidement avec des moyens extrêmement complexes à détecter et à neutraliser. Ça n'est pas rien pour un groupe terroriste qui est défait et pour des individus qui sont potentiellement individuellement dangereux, notamment pour ceux qui voudraient revenir sur le territoire européen pour frapper.
À l'étranger, aux États-Unis, Donald Trump montre les muscles. Toujours malade du coronavirus, il se dit impatient de débattre avec son adversaire démocrate Joe Biden le 15 octobre prochain. Ce soir, ce sont les candidats à la vice-présidence qui s'affrontent. Kamala Harris côté démocrate, Mike Pence côté républicain. Par ailleurs, à moins de 4 semaines maintenant de la présidentielle, Donald Trump enterre le plan de relance. Il a mis fin aux négociations avec l'opposition. Conséquence, les aides sociales suspendues depuis juillet ne seront pas versées ce mois-ci. Les entreprises qui attendaient ce plan avec impatience vont devoir licencier dans les semaines à venir.
Roland Garros frappé à son tour par des affaires de matchs truqués. Il s'agit d'un double.
Oui, le parquet de Paris ouvre une enquête pour corruption et escroquerie en bande organisée. Des soupçons pèsent, vous le disiez Guillaume, sur une rencontre de double féminin la semaine dernière. Deux Roumaines opposées à un duo russo-américain. Bonjour Charles Bonner.
Bonjour Marc.
Pour résumer, une balle qui se retrouve dans le filet, deux doubles fautes, un jeu blanc dans le cinquième set. C'était trop beau pour être vrai.
Oui, des fautes grossières à répétition avec cette légère impression que la Russe Yana Sisikova, 652e mondiale, fait tout pour perdre. Malheureusement, c'est une pratique récurrente. L'an dernier, l'International Betting Integrity Association a recensé 180 alertes de matchs truqués dans tous les sports. 101 concernaient le tennis. Des joueurs mal classés qui gagnent mal leur vie et qui acceptent donc de se saborder contre une rémunération. Pendant ce match de double soupçonné d'Autriche, les paris en ligne ont anormalement explosé, souvent à l'étranger, dans plusieurs pays. Mais depuis quelques années, les informations circulent mieux et ce sont des plateformes de lutte contre les manipulations dans le sport qui ont alerté. L'enquête est confiée aux policiers spécialisés du service central des courses et des jeux et les sportifs qui cèdent à la tentation risquent gros, souvent l'exclusion à vie de toute compétition.
Merci Charles Bonner. Le tennis, le vrai cette fois, Raphaël Nadal décroche son ticket pour les quarts de finale au bout de la nuit. Victoire en 3-7 face à l'Italien Sinner, 19 ans seulement. En demi-finale, l'Espagnol affrontera Diego Schwartzmann, tombeur de Dominique Thiem. Enfin Guillaume, le monde du rock est en deuil. On a appris la mort d'Eddie Van Halen à l'âge de 65 ans, guitariste américain de légende, fondateur du groupe de rock du même nom, star planétaire dans les années 80-90. Van Halen avait soulevé les foules, notamment avec cet hymne Jump. Jump qui avait fait vibrer le stade Vélodrome d'ailleurs. Le morceau accompagne depuis 34 ans l'entrée des joueurs de foot de l'OM. Jump to Even a d'ailleurs réagi le club phocéen hier soir sur Twitter.
Voilà, donc David Lee Roth, le chanteur, qui a fait une sorte de mélange entre, comment s'appelait-elle, vous savez, les deux jeunes femmes qui faisaient de la danse sur les antennes de France 2 il y a des années, Véronique et David Knight, à moitié à poil, en train de sauter dans tous les sens. Mais c'est vrai qu'Eddie Van Halen et son frère, qui sont à l'origine du groupe, Eddie Van Halen est peut-être le guitariste le plus rapide de l'histoire du rock. Certainement pas le plus mélodieux, le plus musicien, mais c'est un phénomène. Et c'est notamment lui, on l'écoutera tout à l'heure, qui a enregistré le solo de Beat It de Michael Jackson, qui est un solo évidemment légendaire dans l'histoire de la musique populaire, qui est donc de la musique classique. 7h30.